Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Centre Pompidou à l'invitation de la Bibliothèque publique d'information pour cet hommage rendu 20 ans après sa disparition au dramaturge Bernard-Marie Coltès, dont chacun sait ici qu'il est parmi les dramaturges français contemporains l'un des plus lus, l'un des plus joués, l'un des plus admirés. Et c'est pourquoi la Bibliothèque a tenu à lui rendre hommage, à la fois en résonance avec la manifestation de préfiguration du Centre Pompidou Metz, où cette année est l'année Coltès, dans le cadre de la manifestation Constellation qui s'y déroule en ce moment même, et puis aussi parce qu'il s'agissait de témoigner de l'actualité particulière de Bernard-Marie Coltès avec la publication aux éditions de Minuit de la correspondance inédite, dont vous pouvez voir quelques échantillons dans la galerie Rambuteau, l'espace d'exposition à l'entrée de la bibliothèque. Je tiens à remercier tout particulièrement pour l'organisation de cette manifestation, les différentes collectivités territoriales, la ville de Metz, la communauté d'agglomération Messine, le conseil général de Moselle, l'association Quai Est Bernard-Marie Coltès, le conservatoire à rayonnement régional de Metz. Je salue aussi naturellement tous les invités qui ont bien voulu répondre présents, à la fois écrivains, metteurs en scène, journalistes, producteurs à France Culture, que vous allez entendre tout au long de cette manifestation sous forme de triptyque. Et je voudrais naturellement aussi adresser un remerciement tout particulièrement chaleureux à M. François Coltès, sans lequel cette manifestation n'aurait pas pu revêtir ce caractère, en particulier avec la projection en soirée du film La Nuit Perdue. Voilà, j'espère que vous passerez des moments intéressants et fructueux autour de l'œuvre de M. Coltès. Merci. Excusez-moi, j'aurais dû annoncer M. Christophe Bidan, maître de conférence à l'Université de Paris 7, pour la conférence introductive qui débute cette manifestation.
Bien, alors je suis particulièrement heureux, évidemment, d'introduire à cette grande demi-journée, on va dire, consacrée à Bernard-Marie Coltès. On m'a demandé deux choses, à dire vrai, en deux temps. D'abord, de présenter Coltès. Et ensuite, de donner un titre. Alors, j'ai donné un peu rapidement un titre, Le sens du monde, rien que ça. Et ensuite, il m'a fallu quand même quelque temps pour essayer de m'expliquer moi-même avec ce titre, ambitieux. Et j'essaierai quand même de donner quelques pistes à cet égard, sur cette première intuition. Il est toujours délicat, me semble-t-il, et peut-être donc aussi brutal, de présenter un auteur au public, à un public de lecteurs, qui pour certains l'ont déjà lu, pour d'autres vont le lire, pour d'autres encore vont le relire, ou continuer à le lire, puisque concernant Bernard-Marie Coltès, les éditions de Minuit viennent encore le mois dernier d'ajouter deux nouveaux volumes à son œuvre, un scénario, Nickel Stuff, et un livre d'un genre inédit, une somme de correspondance, que François Coltès, frère de l'écrivain et ayant droit, présente comme la plus juste des biographies possibles. Il est d'autant plus délicat, et donc peut-être d'autant plus brutal, de présenter un auteur de théâtre à un public de lecteurs et de spectateurs qui, pour certains, ont vu des représentations de ses pièces, pour d'autres, vont en voir ou en revoir. Et si présenter un auteur signifie aussi tenter de le rendre présent, je ne saurais mieux le faire que les comédiens de Jean de Pange qui, tout à l'heure, à 17h45, d'après le programme, feront entendre la voix de Bernard-Marie Coltès. Mais comme Coltès aimait à la fois, je l'imagine, et ses lettres me le confirment, la délicatesse et la brutalité, j'ai consenti, à l'aimable invitation de la BPI, à me lancer dans cet exercice. Ma délicatesse, je l'espère, consistera à parler avec amour d'un auteur que j'aime et que parfois, aujourd'hui en France, on se demande encore pourquoi il faut le défendre. Ma brutalité, elle, consistera à entrer dans l'œuvre avec la violence d'un titre constitué de deux gros mots, le sens, le monde, ni plus ni moins donc que le sens du monde. Avant d'en arriver là, j'essaierai de satisfaire à l'exigence d'une présentation sommaire d'ordre généalogique de la vie et de l'œuvre de Coltès. Pour simplifier les choses, on peut scander cette vie et cette œuvre en trois mouvements. Le premier mouvement est celui de l'enfance et de l'adolescence, de la naissance 1948 à 1970 ou 1971. C'est l'enfance à Metz, les vacances régulières à Pralognan dans les Alpes, tout un tableau que l'on connaissait déjà et que la correspondance vient préciser. Tout un tableau pourrait être tracé, je n'en ai pas le temps ici, de l'atmosphère familiale, de la présence ou de l'absence du père militaire, l'amour de la mère dont les lettres, à tous égards et dans l'ensemble de l'existence de Coltès, ne cessent de témoigner son ampleur et sa vivacité, sa profondeur. Le collège jésuite, les études auprès, entre autres, du père Mambrino, que l'on connaît aussi pour l'importance de sa collaboration et de sa contribution à la revue Études. Bref, il y aurait tout un tableau qu'on pourrait préciser et pour lequel je me contenterai simplement de rappeler une phrase. Une phrase de Coltès, une phrase dans un entretien qu'il avait donné en 1988, l'année du retour au désert et donc l'année précédant sa mort, où il parle plus particulièrement des événements liés à la guerre d'Algérie que le retour au désert évoque, les événements liés à la guerre d'Algérie tels qu'il avait pu les ressentir et à travers ces ressentiments les pressentir à l'intérieur de la ville de Metz. J'extrais juste cette petite phrase. Entre 12 et 16 ans, les impressions sont décisives. Je crois que c'est là que tout se décide. Tout. Avec un point entre les deux et donc une frappe rythmique assez forte sur ce dernier tout. Est-ce que tout se décide dans l'enfance ou est-ce que tout se décide dans l'adolescence entre 12 et 16 ans? Je ne sais. Mais il est vrai que, on le verra dans l'ensemble de la vie de Coltès, les événements, des événements parfois très, très singuliers, très, très minimes, au sens peut-être où on peut parler avec Deleuze de littérature mineure, et donc de l'importance, de la grandeur de cette littérature mineure, des événements parfois minimes, lui permettent d'évoquer, peut-être justement le sens du monde. C'est à travers souvent des événements microscopiques que l'œuvre s'élabore, se construit et prend une réelle ampleur. Et c'est ce mode d'élaboration de l'écriture qu'un deuxième mouvement dans la vie de l'œuvre va commencer à accomplir. Ce deuxième mouvement, c'est celui des premiers textes et des premières mises en scène. On peut le circonscrire environ entre les années 1970-71 et les années de l'installation à Strasbourg et 1977, l'année des peut-être deux grands premiers textes de Bernard-Marie Coltès, Salinger et La nuit juste avant les forêts. 1970-71, c'est donc l'installation à Strasbourg, c'est des études vite abandonnées, c'est la passion pour le théâtre. Dans une des lettres qui viennent d'être publiées, on peut extraire cette phrase qui est quasiment, je dirais presque missionné, à la veille, écrit Coltès, à la veille d'une vie que je veux consacrer au théâtre. Et ce mode sacré, mystique parfois, avec lequel il parle du théâtre est constant, quasiment constant, et particulièrement dans ces années-là. Des années où il est à la fois écrivain, parfois, très rarement, acteur, mais plus souvent metteur en scène. Des années pendant lesquelles il hésite également à choisir tel ou tel genre. Ce sont les années aussi où il écrit un scénario, où il tourne un film, le film que François Coltès et Yann Siret présenteront ce soir, La nuit perdue. Ce sont des années extrêmement intenses qu'on connaissait peu au moment de la mort de Coltès et que les différentes publications rendues possibles par François Coltès après la mort de l'écrivain, au fil et à mesure des années 90, ont déjà permis de prendre la mesure. C'est quasiment un texte par an. Ce sont des textes comme Les Amertumes, Procès-Ivre, L'Héritage, Le jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet. Beaucoup de ces textes sont des textes qui sont adaptés d'auteurs comme Dostoïevski, comme Shakespeare, comme Gorky. Certains textes, le premier d'entre eux c'est L'Héritage, est un texte totalement inventé de Coltès, et certaines lettres témoignent alors, justement, en 1972, de la difficulté, tout à coup, qu'il a à écrire, à se lancer, en quelque sorte, dans le vide. On se demande d'ailleurs parfois si ce qui lui importe le plus, et on se le demande dès ces années-là, c'est le théâtre ou c'est écrire. La configuration sacrale dont je parlais tout à l'heure à propos du théâtre, on la retrouve également à propos de l'écriture. Écrire, par exemple, dit-il, écrire pour moi et toute ma vie. Ces quelques années, donc relativement peu nombreuses, 5, 6, 7 ans, se close, ou plutôt s'ouvre sur une troisième période, sur un troisième mouvement qui est celui qu'on a connu dans un premier temps le plus, qui est celui par lequel Bernard-Marie Coltès a été connu dans le monde, et qui est le mouvement à proprement parler de l'œuvre. Il est, de ma part, en même temps très maladroit de vouloir aussi nettement circonscrire l'œuvre en deux ou trois mouvements. C'est plus une commodité rhétorique qu'une réalité artistique, je crois. Et un élément parmi d'autres que les lettres, d'ailleurs, permettent de saisir, un élément parmi d'autres permettent de déjouer ces périodisations faciles sur lesquelles nous, universitaires, nous projetons parfois trop rapidement. On sait que Bernard-Marie Coltès a un jour reconnu que la première œuvre qui pour lui était véritablement importante, la première, c'est-à-dire celle avec laquelle il considérait qu'il était devenu véritablement un écrivain, c'était « La nuit juste avant les forêts ». Et on savait que Bernard-Marie Coltès, en 1977, avait écrit deux textes qui avaient été joués la même année. « La nuit juste avant les forêts » et « Salinger ». Il semblait donc assez commode de penser que Salinger était écrit au début de 1977, puisqu'il faisait partie des textes que Coltès, d'une certaine manière, rejetait dans une première partie de son œuvre, dans une préhistoire de son œuvre, et que la nuit aurait été écrite à la fin de l'année 1977, ou en tout cas après Salinger. On sait et on voit bien maintenant, d'après les lettres, que les deux écritures se sont en réalité enchevêtrées et que même l'écriture de Salinger a plutôt anticipé celle de La nuit juste avant les forêts. Il est donc très, très délicat de dire, de découper ainsi la vie en différentes périodes. Il est certain d'ailleurs que la dramaturgie de Salinger a peut-être davantage à voir avec la dramaturgie de pièces à venir, comme Key West par exemple, même si il faut reconnaître en même temps que La nuit juste avant les forêts, ce texte fait, comme vous le savez probablement, d'une longue phrase très lyrique, très rythmée, conséquemment reprise, conséquemment et incessamment relancée. Ce texte phrase, donc ce texte particulièrement étonnant, ce texte qui n'est pas précisément peut-être d'ailleurs un texte de théâtre, qui est d'abord un texte pour la voix et un texte pour le corps, et qui peut donc évidemment devenir un texte de théâtre, mais que l'on pourrait à la limite classer aussi bien dans le registre poétique, dans une sorte de vaste poème en prose, même si donc ce texte, La nuit juste avant les forêts, préfigure évidemment d'autres textes aussi de la dernière partie de l'œuvre de Coltès, et particulièrement un texte comme Dans la solitude des champs de coton, par exemple. Je me tourne enfin donc vers ce troisième mouvement, vers cette troisième partie, qui irait de 1977 à la mort de l'auteur. Une bonne décennie, donc une bonne décade, comme on le dit à propos de Racine, qui écrit ses 7 grandes pièces en l'espace de 10 ans. Il y a 6 ou 7 grandes pièces aussi, en 10 ans, dans l'œuvre de Coltès. La nuit juste avant les forêts, Combat de nègres et de chiens, Key West, Dans la solitude des champs de coton, Le retour au désert et Roberto Zucco. On peut penser aussi à leur adjoindre quelques petites pièces comme Coco ou Tabataba, et l'adaptation ou la réécriture qu'il propose d'une pièce de Shakespeare. Cette œuvre, constituée principalement donc de ces 6 ou 7 titres, cette œuvre parcourt le monde, au moins en tout cas les continents africains et américains. L'Algérie, l'Afrique noire, New York, l'Amérique latine sont particulièrement présents dans ces pièces. Et c'est ce que montrent encore mieux les lettres. Un homme perpétuellement instable qui parcourt le monde, au moins en tout cas ces mêmes continents qui seront précisément évoqués dans l'œuvre, et qui le parcourt encore plus intensément dans toutes ces années, voyageant, je dirais presque à l'intérieur même des voyages, puisque quand il part quelque part, ça n'est pas pour s'installer à un endroit ni même dans un pays. C'est par exemple quand il part au Nicaragua pour aller également au Salvador ou au Guatemala, qui est donc un homme sans cesse en mouvement, restant rarement en place quelque part. D'une certaine manière, il l'avait déjà écrit dès l'enfance à sa mère. « Je ne conçois, écrivait-il, l'avenir que dans une espèce de déséquilibre permanent de l'esprit pour lequel la stabilité est non seulement un temps mort, mais une véritable mort. » C'est peut-être cette manière de voir le monde et de tenter de donner un sens au monde ou de tenter de saisir le sens du monde que Coltès envisage à partir de ce déséquilibre permanent de l'esprit. Et c'est cette relation entre la nécessité d'un déséquilibre pour percevoir ou rendre quelque chose du sens du monde vers lequel je voudrais maintenant me tourner. Le monde, dans son extension géographique, est donc présent dans l'œuvre de Coltès. Mais si j'ai quand même osé, à son endroit, de parler de sens du monde, c'est en un sens, en fait, très léger du mot sens. Ni celui de la signification, ni celui de la direction ou de l'orientation, mais plutôt celui de l'intuition, comme on dit de quelqu'un, par exemple, qui a le sens des affaires. Avoir le sens des affaires, c'est justement avoir des intuitions efficaces, un mélange de savoir, de savoir-faire et de flair, qui permet de réussir dans toutes les entreprises. Face au monde, ou dans le monde, je ne dirais pas que Coltès a eu le sens des affaires, mais qu'il a peut-être eu ce flair, ce sens du monde, qu'il a développé des intuitions efficaces, en vertu peut-être d'ailleurs de ce qu'on appelle en théologie la grâce efficace, une grâce souvent évoquée par Pascal, ce que Coltès, on imagine, devait connaître. La grâce efficace, pour le dire vite, c'est celle par laquelle l'homme, par l'intervention de Dieu, est certain d'accomplir ses œuvres. Œuvre, autre terme théologique, qui entre en résonance ici avec le vocabulaire artistique. Je n'oserais dire que c'est par l'intercession de Dieu que Coltès accomplit ses œuvres, son œuvre, mais je dirais que Coltès a réussi cette œuvre avec une grâce qu'il a su acclimater ou convertir en chacune ou presque de ses tentatives dramaturgiques ou plus généralement littéraires et artistiques. J'y reviendrai, il ne faut pas oublier la part de la prose, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Il faut mentionner aussi le recueil intitulé « Prologue », constitué de ce roman, donc « Prologue inachevé » et de quelques nouvelles. Une grâce, donc, une grâce appliquée au monde, au sens du monde. Coltès fut le contemporain, notre contemporain, dit le programme de cette manifestation, Coltès fut d'abord le contemporain d'un monde en pleine extension, en pleine mondialisation. Une mondialisation violente, enjeu de guerre, militaire, politique, économique. Rappelons-le, Coltès naît 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il va connaître les guerres de décolonisation, aussi bien que l'oppression des recolonisations économiques, monétaires et militaires. C'est ce que vont évoquer Salinger, le Vietnam, le retour des airs, qui évoque l'Algérie, ou combat de nègres et de chiens, l'Afrique noire prise dans et par les chantiers blancs. C'est ce qu'évoquent donc quelques œuvres, c'est ce qu'évoquent aussi de nombreuses lettres. On est frappé à lire ces lettres, combien l'œuvre trouve ses points de naissance et d'ancrage dans le réel. Ce sont ces événements minimes, minimaux, dont je parlais tout à l'heure. Il suffit par exemple d'un voyage en Afrique noire pour rendre visite à l'une de ses anciennes amies, même pas ancienne d'ailleurs, enfin à une de ses amies d'enfance ou d'adolescence, dont le mari travaille dans un chantier où s'est installée donc une entreprise occidentale, l'entreprise Dumay, à tel point que Coltès pense à un moment donné intituler sa pièce non pas Combat de nègres et de chiens, mais Entreprise Dumay & Co. ou quelque chose de ce genre. Et il suffit de voir comment c'est non pas finalement le voyage en Afrique, d'ailleurs quand il retournera en Afrique et quelques temps plus tard, il dira « cette fois je vois l'Afrique du côté des Africains ». Mais c'est comment à travers donc simplement quelques réalités prises sur le fait, l'ambiance délétère d'un club de néo-coloniaux, si je puis dire, dans lequel il se sent évidemment particulièrement mal à l'aise. C'est comment donc à travers des événements en quelque sorte minimes, décalé, indirect, comment en fait la grande histoire va réussir à être évoquée. Et c'est la même chose pour le retour au désert. Le retour au désert évoque la guerre d'Algérie sans pourtant se passer en Algérie. Le retour au désert évoque la guerre d'Algérie à Metz, là où Coltès l'a lui-même vécu, là où lui-même Coltès a vécu, le retour du général Massu, les violences affrontant les différentes communautés parachutistes, militaires d'extrême droite et les différentes communautés également algériennes. Et comme, en outre, Coltès souligne dans ses lettres qu'il écrit peu, qu'il met du temps à écrire, qu'il écrit peu, enfin qu'il écrit tout le temps, mais qu'il écrit peu en même temps, et qu'il met du temps à finir une œuvre. On voit comment en réalité un événement du monde, ou une série de petits événements du monde, suffit à faire naître le sujet d'un texte, pour lequel alors il s'enfonce littéralement pendant plusieurs mois, parfois plus d'un an, dans l'écriture. L'écriture dispose, de façon donc souvent indirecte, le sens du monde. L'écriture n'affronte pas le sens du monde, elle le prend par la tangente. Combat de nègres et de chiens, souligne Coltès, ne parle pas de l'Afrique. Le retour au désert, souligne-t-il encore, ne parle pas de l'Algérie. Mais en même temps, évidemment, chacun de ces deux textes, à sa manière, en situant le conflit en territoire blanc, le chantier de l'entreprise du Mai, une maison de Metz, chacun de ces deux textes évoque de manière encore plus violente le sens d'un monde en guerre perpétuelle. Tous les impacts de la mondialisation se retrouvent chez Coltès sur un petit bout de territoire, ou encore sur un quai, comme dans Key West, ou dans des situations à la fois très abstraites et très concrètes, au coin d'une rue, dans la nuit juste avant les forêts, entre deux immeubles, dans la solitude des champs de coton. Coltès évoque ainsi le monde depuis des lieux très personnels, depuis, dirais-je, sa propre province, depuis, pourrais-je dire aussi, ses propres solitudes. On sait que dans la langue classique, celle de Bossuet, par exemple, la solitude désigne un espace neutre, un espace désert, une sorte de no man's land. Et c'est en ce sens aussi, me semble-t-il, qu'il faut entendre le titre « Dans la solitude des champs de coton ». C'est donc à une intériorisation subjective du monde que toute l'œuvre procède. L'autre est d'abord l'autre en moi, tel que je le vis, tel que je l'aime, tel que je l'intègre. Tel que je l'intègre toujours provisoirement pour le laisser à nouveau vivre ailleurs et pour lui-même. En deux mois de 1981 à New York, Coltès tombe, dit-il, au moins 55 fois éperdument amoureux. Ou encore, à Paris en 1977, j'ai des histoires d'amour compliquées tous les deux jours et plusieurs à la fois. Coltès tombe amoureux des autres, et c'est cet amour des autres, des Noirs notamment, qui colore, ou mieux, éclaire toute son œuvre. La citation que je vais faire est assez connue, mais je la rappelle parce qu'elle me semble vraiment absolument décisive. « Il me semble qu'ils, les Noirs, seront inévitablement présents, jusqu'à la fin, dans tout ce que j'écris. Me demander d'écrire une pièce ou un roman, sans qu'il y en ait au moins un, même tout petit, même caché derrière un réverbère, ce serait comme de demander à un photographe de prendre une photo sans lumière. » Et Coltès précise, ce qu'il énonce presque comme un principe, c'est moins le noir qui est le négatif, en suivant toujours cette métaphore photographique, c'est moins le noir qui est le négatif de mes pièces que mes pièces qui sont le négatif du noir. La sexualisation de l'autre est donc également l'une des figures dramatiques à partir de laquelle Coltès construit son œuvre. Certes, Coltès est encore contemporain et même acteur d'un autre modèle de mondialisation, proche de mouvements qui prônent une valeur monde, précisément, le communisme ou les hippies ou les junkies. Mais toujours, une distance s'impose. Il a cette phrase magnifique dans l'une des correspondances. « Les voies de la lutte des classes sont impénétrables. » Il rejettera toujours l'identité française, mais jamais la langue, sa langue. Il précise d'ailleurs qu'il ne peut écrire en français qu'à l'étranger, en entendant d'autres langues pour mieux se plonger dans la sienne. Instable, toujours insituable en tout cas, toujours en mouvement. Et la seule permanence semble alors être celle de la musicalité de la langue, ou peut-être même de la musique, tout court. Peut-être Coltès n'a-t-il aucun « home », aucun autre « home », c'est le titre, vous le savez, l'un de ses textes courts, aucun autre « home » peut-être que celui de la musique. Il parle tout le temps dans les lettres du poste, on imagine de radio, magnétophone, qui lui permet d'écouter de la musique. Les classiques d'abord, de manière effrénée, Bach, Brahms en particulier, le reggae ensuite. Et la seule période pendant laquelle, semble-t-il, il ne peut écouter de la musique, quand il se trouve au Guatemala, au bord du lac Atitlan, parce qu'il n'a pas les moyens, tout simplement, j'imagine, électriques de le faire, c'est le seul moment où il dit qu'il en souffre, et c'est la seule chose dont il souffre de ces quelques mois de solitude au bord de ce lac, où il écrit « Combat de nègres et de chiens ». La musique, me semble-t-il, signe à la fois la perméabilité de Coltès aux années 70 et 80, mais plus généralement, elle est le contre-modèle éternel d'une communication, une communication qui se ferait au-delà de toute particularité, au-delà de tout particularisme de langue. La musique comme le rêve d'une autre mondialisation. Dans une lettre, avec un mélange d'affection et de dérision, il le dit, en particulier du disco. Il est au Guatemala en 1978 et, je le cite, « La musique de La fiebre el sábado por la noche règne sur le continent, de Mexico à Managua, et j'adore ça, la culture à l'échelle mondiale. » La musique, la musicalité de la langue, offre le sens du monde, offre le sens au monde de la littérature. On connaît ces phrases depuis longtemps qu'il avait données dans les entretiens. Il n'existe pas de coupure fondamentale entre la musique et la littérature. Ou encore celle-ci. Mes racines, elles sont au point de jonction entre la langue française et le blues. On sait enfin la part importante que prennent les langues étrangères, la sonorité des langues étrangères dans la plupart de ces pièces où une scène ou plusieurs scènes, dans une scène ou dans plusieurs scènes, un personnage ou plusieurs personnages parlent en allemand, en arabe, en wolof, en quechua même. Si l'intériorisation du monde passe ainsi par sa sexualisation et par sa musicalisation, elle passe par son filtre littéraire aussi. Coltès lit beaucoup, particulièrement les gros livres, il les absorbe, les romans américains, Proust, Hugo, Dostoïevski. Il transpose ses scénarios narratifs dans des modèles de monde. Mais c'est qu'il transpose déjà le monde dans des modèles narratifs. C'est ce qu'il écrit à sa mère du Nicaragua, je cite, « J'ai l'impression d'avoir quitté le vrai monde depuis très longtemps pour me trouver dans un univers de livres. » C'est aussi, je crois, une des raisons pour lesquelles il défendra bec et ongle la traduction de Key West par Rainer Müller, quelques manques d'orthodoxie qu'il puisse y paraître. On sait que ça avait fait tout un débat en Allemagne, la traduction d'Heiner Müller ayant été jugée extrêmement déficiente et inexacte par rapport au texte de Coltès. Réponse de Coltès, qui écrit à son agent en Allemagne. « Je ne crois possible une version en langue étrangère que si c'est un écrivain qui la prend en charge, avec les risques de transformation qu'une réécriture comporte et que j'assume fort joyeusement. » L'intériorisation du monde, elle est dans son écriture, dans l'écriture du monde, dans la réécriture du monde, dans son propre mode d'intellection. Le sens du monde, c'est donc la possibilité de l'écrire, de le réécrire, et non de le calquer, de le lisser, de le copier avec prudence, comme l'aurait fait une bonne traduction, une soi-disant bonne traduction. Cette intériorisation préside ainsi, et c'est là que fait retour la grâce, à autant de dramaturgie qu'il est de projets théâtraux. Sans parler donc des nouvelles, du roman achevé et du roman interrompu, de combat de nègre et de chien, qu'une lettre décrit d'abord comme un roman, des désirs incessants de films et de scénarios. Autant de dramaturgie, en effet, qu'il est de projets théâtraux. C'est ce qui me semble extrêmement singulier, ce qui m'a toujours frappé, saisi chez Coltès, c'est que chacune de ces pièces propose un système, un modèle, un fonctionnement dramaturgique différent. Et c'est pourquoi, je crois, elle est d'ailleurs particulièrement à la fois difficile et désirable à mettre en scène. Des tentatives constantes, donc. Un déséquilibre de la forme. Plusieurs déséquilibres formels. Des œuvres qui mettent du temps à trouver leur forme. Je l'ai rappelé tout à l'heure pour la première pièce qu'il écrit sans modèle. La première pièce qu'il écrit donc sans adapter une autre pièce ou un roman pour l'héritage. Cette difficulté à se priver de support, de tuteur. On peut le remarquer également à propos de La nuit juste avant les forêts, que Coltès a eu beau effectivement considérer comme peut-être sa première grande œuvre. En même temps, il écrit à Yves Ferry, le comédien et ami pour qui il avait écrit cette pièce. « J'espère qu'il te plaira, ce texte, hein, le texte de La nuit. J'espère qu'il te plaira, t'intéressera, extirpera de toi le génie latent. » Car, l'écrivant tout exprès pour toi, il ne correspond à rien de ce que l'on pourrait appeler mes pentes naturelles. Toujours une manière donc de remettre en cause ces pentes naturelles, de se remettre en cause, de se remettre en question, de relancer les formes, de mettre du temps pour trouver les formes, et pour peut-être jongler également avec les formes. Je suis toujours saisi aussi par le fait que ces textes limites que peuvent être La nuit juste avant les forêts, un long texte phrase, ou dans La solitude des champs de coton, cette sorte, disait Coltès, de dialogue philosophique par lequel, pendant une heure et demie, un dealer et un client s'échangent des phrases absolument impossibles. Je suis toujours frappé par le fait que ces textes limites ont été écrits quasiment en même temps, de manière presque enchevêtrée, avec des pièces qui comportent, elles, une dramaturgie beaucoup plus large, des pièces à beaucoup de personnages, des pièces où les personnages dialoguent, des pièces à 8 ou 9 personnages. C'est donc Salinger en même temps que La Nuit et Key West plus ou moins en même temps que Dans la solitude des champs de coton. En même temps, plus ou moins en même temps, plus ou moins enchevêtré, un peu avant, un peu après, mais témoignant finalement de ce souci de remettre sur le métier constamment la forme dramaturgique, de ne jamais la saisir, de ne jamais la figer, de ne jamais la fossiliser. Le sens du monde passe enfin également par la solitude. On parle beaucoup dans ses lettres, il parle beaucoup, il écrit beaucoup, mais s'il écrit, c'est effectivement qu'il est loin. Il le dit parfois, il souffre de la solitude de tel ou tel, dans laquelle la distance le plonge à l'égard de tel ou tel ami. Il aime en même temps cette solitude, parce que elle lui permet de voir autre chose, de vivre autre chose et d'écrire à ce moment-là. Cette solitude est donc à la fois constamment recherchée et répudiée. Elle est un contrepoint permanent au voyage, elle est un complément à la quête du sens du monde. Je cite une lettre à sa mère dans laquelle il manifeste bien précisément ces deux voies complémentaires, ces deux voies pénétrables peut-être, par lesquelles on peut saisir le sens du monde. C'est l'éternelle opposition, écrit-il, entre le grand voyageur et le philosophe en chambre. On pense encore une fois à Pascal. Chacun, le grand voyageur et le philosophe en chambre, chacun a sa manière de connaître le monde, mais tous les deux le connaissent, même s'il n'est pas facile de les faire se rencontrer. Aristote a pensé et connu le monde sans quitter le coin de sa cheminée. Laurence d'Arabie a parcouru physiquement l'univers pour le comprendre. Voilà les deux extrêmes de la connaissance. Je voudrais terminer en citant une phrase de Jean-Luc Nancy, puisque « Sens du monde » renvoie encore au titre d'un de ses livres. Je cite cette phrase du philosophe. « Il est aujourd'hui à nouveau exact, aujourd'hui c'est 1993 ». Date de l'écriture du livre. Singulièrement, 4 ans après la chute du mur de Berlin pour Nancy, mais également pour nous, 4 ans après la mort de Coltès. Il est aujourd'hui à nouveau exact qu'il ne s'agit plus d'interpréter le monde, mais de le transformer. Il ne s'agit plus de lui prêter ou de lui donner un sens de plus, mais d'entrer dans ce sens, dans ce don de sens que le monde est lui-même. Je pense que cette phrase correspond assez bien à Coltès, et en particulier la chute. Toute sa vie, par son œuvre, par la quête incessante et la grâce efficace de son œuvre, Bernard-Marie Coltès est entré dans ce don de sens qu'est le monde lui-même. Je vous remercie.